PSL, Pyrénées Sport Local, tous les lundis, 19h-20h. Retrouvez toute l'actualité sportive du Béarn sur Radio Inside. 19h-20h. Résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tous niveaux sont dans Pyrénées Sport Local.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Inside. Moi c'est Xavier Grosclaude et je vous accompagne jusqu'à 20h pour l'émission Pyrénées Sport Local en direct. Comme chaque lundi avec l'équipe des sports qui est à mes côtés. On retrouve tout d'abord Mathilde Faux. Salut Mathilde.
Salut Xavier, bonsoir à tous.
T'es en forme Mathilde?
Ça va.
Impeccable. Marc Loginier est là lui aussi, salut Marc.
Salut à tous.
Et un petit clin d'œil également à notre quatrième compagnon, Olivier Garcia, qui a eu quelques petites mésaventures en Ukraine. Bon, il va se remettre, mais on le retrouvera la semaine prochaine.
Comme ça fait peur. Hein.
mais franchement, ça fait peur quand même.
Voilà, on lui en dit pas plus. On lui fait un petit clin d'œil, en tout cas, Olivier, que l'on retrouvera bien sûr sur l'antenne de Radio Inside dès lundi prochain. Et on accueille notre invitée du soir. C'est une marathonienne. Elle est également directrice du magasin Cache-Pau, Virginie Kolanowski. Bonsoir, Virginie.
Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tout le monde.
Merci à toi d'être avec nous ce soir dans l'émission Pyrénées Sport Local. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de course à pied essentiellement ce soir dans Pyrénées Sport Local. Vous retrouverez bien sûr les chroniques habituelles. Tout d'abord, le journal du sport local aux alentours de 19h30 avec Marc Loginy.
Ouais, mais un petit tour de l'actualité sportive, surtout Sportco, un peu de tennis dont tu vas parler. On va voir du rugby, du foot, un peu de basket et un peu de hand. Et après, on aura quelques réactions aussi des réseaux sociaux sur ces.
Voilà, les réactions sur les réseaux sociaux, vous les retrouverez tout au long de cette émission avec Mathilde. En fin d'émission, bien sûr, le kiff et la gifle, hein, habituellement présenté par Olivier Garcia. Ce soir, c'est Marc qui va faire le porte-parole d'Olivier pour le kiff et la gifle en fin d'émission. Très rapidement, Marc, en quoi ça consiste?
On va faire un petit point positif, un petit point négatif sur ce qui s'est passé à Clermont hier, voilà, par rapport à la section.
Ouais, donc plutôt négatif peut-être, mais on verra en tout cas en fin d'émission ce que tu nous as préparé, Marc. À 19h30 aussi dans cette émission, vous retrouverez le président du club de Pau-Nousty Sport, Jérôme Doubrère, qui parlera avec nous de la belle période, on va dire, que traverse son club de Pau-Nousty. 6 victoires consécutives pour Pau-Nousty qui dispute les playoffs en National 1 de handball, au même niveau que le Bière Handball qui occupe la première place. Pau-Nousty qui a gagné encore une fois ce week-end, c'était face à Valence. On en parlera tout à l'heure donc avec le président Jérôme Doubrère. Mathilde, très rapidement, un petit focus sur les réseaux sociaux, comment ça se passe?
Bah, si vous voulez envoyer une petite question à notre invité ou vos résultats sportifs du week-end, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de Radio Inside, nommée Radio Inside, sur la page Instagram Radio pour Inside, sur Twitter aussi, ou par téléphone au 05 59 84 02 16. Et si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez nous envoyer un mail sur l'adresse suivante sport@radioinside.com.
Voilà, c'est également à cette adresse sport@radioinside.com qu'il faut nous écrire si vous souhaitez participer à cette émission et nous envoyer bien sûr toutes vos informations tout au long de la semaine. On regarde tout ça et puis on en parle le lundi dans le journal du sport local où on vous accueille bien sûr si vous êtes une association sportive, un club sportif, un sportif, peu importe le niveau, peu importe le sport, tant qu'on reste aux alentours de Pau et aux alentours de Tarbes, on en parle dans Pyrénées Sport Local bien sûr. Mathilde, ce soir aussi, c'est le jeu comme chaque lundi avec des places à gagner pour aller voir et encourager ou la section qui reçoit Montpellier ou bien l'Élan Béarnais qui reçoit Chalon-Reims. Ces deux matchs auront lieu samedi soir.
Alors du coup, vous pouvez répondre à la question sur les réseaux sociaux, on va dire sur la page Facebook de Radio Inside. Vous nous envoyez un message avec la réponse à la question suivante. Quel joueur de l'Élan Béarnais a terminé meilleur marqueur contre Boulazac avec 27 points? Alors, trois propositions. Michoko, Bichoko ou Chicoco.
Ouais, il faut quand même mettre la bonne réponse dedans, Mathilde. Sinon, ça va pas le faire.
Bon, voilà, mais vous nous envoyez la bonne réponse sur la page Facebook de Radio Inside et on tirera au sort le gagnant. Et vous choisirez la section ou l'élan ce week-end en match.
Les deux, ça va être compliqué.
Samedi.
Ouais, voilà, les deux, ça va être compliqué puisque la section joue à 18h45 et l'élan Béarnais joue à 20h. Restez bien sûr à l'écoute de Pyrénées Sport Local et de Radio Inside. On va se retrouver dans quelques instants, juste après une courte page de pub, et où on retrouvera notamment notre invité Virginie Kolanowski. A tout de suite sur Radio Inside.
PSL.
Pyrénées Sport Local.
Tous les lundis.
PSL.
F. 19h-20h.
Vous écoutez Radio Inside, il est 19h, passé de 8 minutes, c'est peut-être un petit peu mieux quand même si je donne la bonne heure. C'est Pyrénées Sport Local en direct jusqu'à 20h avec notre invité Virginie Kolanowski. Qui va se présenter tout de suite. Voilà, je lui posais la première question. Qui es-tu, Virginie? Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie et nous dire quelle est ta discipline favorite?
Alors, Bon, donc évidemment, je m'appelle Virginie, hein, ça vous l'avez répété plusieurs fois, donc il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas écorché mon nom en plus, donc ce qui est très très bien. Donc je suis gérante du magasin Cache-Pot à Lons. On vend du matériel d'occasion et du matériel neuf. Et ma passion, hormis rencontrer des gens au boulot, enfin c'est une blague, hein, mais bon, c'est la course à pied. Voilà. Donc d'accord. C'est pas forcément le sport de prédilection que vous avez sur la radio, notamment. C'est plus le rugby, vous. Mais bon, voilà. Moi, je suis à fond dans la course à pied.
Et bien, on va en parler ce soir, ça tombe bien. Dans l'émission Pyrénées Sport Local sur Radio Inside, on parle de tous les sports à tous les niveaux. Donc, ça va être très intéressant, forcément, ce témoignage. Tu nous as dit que tu étais donc directrice du magasin Cache-Pot. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton magasin?
Alors, on achète du matériel d'occasion aux particuliers, qu'on revend ensuite par la suite. Et on a aussi du matériel neuf. Donc, ça permet aux gens, alors, c'est de se débarrasser de ce qui ne sert plus et de gagner un peu d'argent au passage, quoi.
Du matériel sportif aussi, tu vois?
Alors, non. Fait pas de matériel sportif. Non.
Bonne question.
Voilà.
C'est la seule chose qu'on fait pas, c'est ça en fait.
D'accord. Mais il faut l'investir pour les autres. Non, mais
donc voilà, mais sinon après on peut faire du sport avec son téléphone aussi. Hein. Donc on achète les téléphones portables, tout ce qui est jeux vidéo et ainsi de suite. Quoi. Tout ce
voilà,
qui plaît,
ça, c'est du sport. L'e-sport, c'est du sport.
Voilà. Voilà. C'est du sport.
Donc il y a du sport.
Virginie, donc tu pratiques la course à pied, le marathon notamment. Ouais. Pourquoi et comment est-ce que tu y es venue?
Alors, pourquoi? En fait, bah, comme la plupart des femmes, hein, on va dire, hein, j'ai voulu mettre à perdre du poids, donc comme la plupart des gens, et je me suis inscrite à une salle de sport, et on a fini par me dire, bon bah écoute, essaye de courir pour voir si tu vas y arriver. Je m'étais dit, bon, on va voir, hein, ça va être faisable. Hein. Et puis, mine de rien, j'ai commencé à me dire que c'était sympa, que ça me plaisait de courir. Et je me suis mis un petit défi, je me suis engagée sur un semi-marathon, 4 mois après avoir m'être mis à la course à pied. Donc le semi-marathon d'Oloron dans le coin, ouais. Donc très local. Hein. Et voilà, de là, de fil en aiguille, j'ai fini un an après à faire un marathon, l'année suivante en faire 4 autres.
Dans la même année.
Dans la même année. Ah, deux au printemps, deux à l'automne, à chaque fois avec un mois d'intervalle entre les deux. Et toujours avec le même plaisir, parce que malheureusement, j'ai un gros souci, c'est que je ne me mets pas dans le rouge pendant le marathon. J'aime juste me faire plaisir, découvrir l'endroit et voilà. Donc
Et tu mets combien de temps à peu près sur un marathon du coup?
Alors,
si
je suis
plaisir.
Très mauvaise, je mets 3h48.
Quoi, très mauvaise, il y en a qui font plus de 4 heures, non, c'est
ouais,
très bien déjà.
Il y en a qui font beaucoup plus d'ailleurs.
Il y en a qui font pas de marathon.
Il y en a qui font pas de marathon.
Donc, minimise pas ta performance.
Oui, mais on va dire que je pourrais faire beaucoup mieux, mais voilà.
C'est pas l'objectif.
Le principal, non, c'est de se faire plaisir. D'ailleurs, sur certains marathons, on peut mettre beaucoup plus de temps, puisque j'ai fait le marathon de New York cette année, et que celui qui a mis le plus de temps a mis 11h30 quand même.
Ah oui.
Et ce qui est énorme, c'est que le marathon de New York, ils vous attendent jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il est arrivé le soir. C'est incroyable. Bon, il l'a fait en marchant, évidemment, hein, mais ça reste incroyable.
Tu es sportive à la base ou pas du tout? Tu es venue à la course à pied comme ça, comme tu le disais, pour perdre du poids au départ?
Alors non, en fait, j'ai fait du sport étant jeune, comme tout le monde, hein, ce que les parents imposent aux enfants, on va dire. Mais non, j'étais pas hyper sportive.
Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans la course pour y avoir envie d'en faire des marathons? Parce que bon, on peut courir comme ça au quotidien juste pour, je sais pas, l'entretien, pour voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de...
Alors en fait, le dépassement de soi-même, hein, tout simplement. Et le marathon, en fait, la première fois que j'ai fait un marathon, j'ai fini sur les genoux, c'est le cas de le dire. Hein. J'ai fait le marathon en ayant un lumbago. Donc, ça a été une vraie difficulté, une vraie expérience psychologique aussi, parce que mentalement il faut être très fort. Et j'ai terminé le marathon, j'étais vraiment mais au bout de moi-même, mais je me suis dit non, c'est ça que je veux faire. Et c'est ce qui m'a permis l'année d'après d'en faire 4 autres, et cette année, l'année suivante d'en faire 1. Voilà. Donc en me disant c'est génial. Quand on arrive au bout, en fait, on a une émotion assez incroyable. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans d'autres sports, hein. Mais quand on arrive aux 2 derniers kilomètres, on a une émotion qui monte, et on pense à tout, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de... C'est assez incroyable, quoi. Et pour info, un marathon, c'est 42 km 195, quoi. Parce que beaucoup de gens vous demandent, mais c'était quelle distance ton marathon? Un marathon fait toujours la même distance, mais bon. Voilà. Non,
ici, il y a des amateurs de sport, on savait, même les auditeurs.
Vous saviez, hein,
il n'y a pas de souci.
J'aurais dû vous
mais
poser
Mais c'est bien de préciser. Quand même.
Est-ce que c'est un défi que tu t'es lancé individuellement ou est-ce que tu as fait ça en groupe? On sait que dans le sport, ça peut être plus facile aussi de se motiver en faisant ça à plusieurs. Est-ce que c'est vraiment partie d'une initiative individuel.
Ouais, alors non, le premier marathon, parce qu'après j'ai fait d'autres courses, hein, là c'était en groupe, mais le premier marathon c'était vraiment individuel. Et les suivants, on va dire que mon équipe à moi, c'est ma famille, donc c'est mon mari et ma fille qui me suivent partout et qui m'encouragent. Je pense que pour eux ça doit être horrible des fois de se dire on est obligé de la suivre pendant presque 4 heures, être obligé d'aller à différents endroits, mais voilà, ça reste énorme quoi.
Tu as fait quoi comme marathon ? Tu allais dans quelle ville du coup ?
J'ai fait deux fois Barcelone, j'ai fait Annecy, j'ai fait le marathon du Médoc, alors qu'il y a un marathon un peu plus long que les autres, hein, mais qui est tellement incroyable, franchement, il faut le faire une fois dans sa vie.
T'as mis 11 heures pour le faire celui-là ?
Et même pas, et en plus j'ai eu un super classement, j'ai fait 4h22 sans entraînement.
Ça c'est le vin ça.
Et je crois que, mais je me suis arrêtée à tous les ravitaillements juste pour prendre des photos, hein, et pour manger, parce qu'il faut expliquer quand même qu'au 38e, on a l'entrecôte bordelaise. Ah, donc ouais. C'est juste c'est fantastique. Génial,
ça va motiver.
Non, je me mets non mais
vraiment à faire le dernier ravito sur le marathon du Médoc. On vous donne quand même un esquimau. Vous courez. Alors moi, en l'occurrence, j'étais en tenue de gladiatrice. Hein. En tenue de gladiatrice avec un esquimau à la main en train de courir, c'était improbable, mais c'était juste fantastique. Enfin, c'est énorme, quoi. Et donc, j'ai fait le marathon de New York, évidemment. Et je ne sais plus, il m'en manque. Le marathon de Saint-Sébastien. Aussi, qui est pas très très loin et qui est assez sympa si on aime la pluie. Voilà, donc c'est chouette.
C'est le Pays Basque.
C'est ça. Mathilde, une question ?
Ouais, on dit qu'il y a une ambiance spéciale sur les marathons, peut-être différente des autres courses. Il y a vraiment une ambiance très festive, il y a une atmosphère particulière. Est-ce
alors,
que tu l'as ressenti ?
Ouais, tout dépend du marathon. Alors, marathon espagnol, notamment le marathon de Barcelone, c'est la fête du début à la fin, ça n'arrête pas, les gens crient après vous, enfin, c'est assez, enfin, ils crient dans le bon sens, hein, mais c'est assez génial. New York, c'est juste incroyable, c'est-à-dire que moi, je l'ai fini, je me suis demandé si j'allais pas retourner en arrière pour refaire le marathon, parce qu'en fait, j'étais vraiment transportée. Donc c'était vraiment énorme. Donc là, au niveau de l'ambiance, c'est ce qu'il y a de plus énorme. Et les autres, bon, sincèrement, Annecy, quand c'est une petite ville, il n'y a pas énormément de supporters, mais ça reste un challenge. Par contre, le Médoc, bah, vous imaginez, quoi, les gens sont déguisés en tout et n'importe quoi, et ils boivent du vin à tous les ravitaux. Forcément, c'est incroyable.
Tu as parlé de ton premier marathon, des émotions aussi à la fin. C'est quoi justement qu'on ressent à la fin du premier marathon ?
À la fin du premier, alors ça dépend de la personne. Moi, en l'occurrence, c'était voilà, j'avais des douleurs partout. Hein, ouais. J'allais pas dire que j'étais super bien, mais une grande fierté. Et moi, j'ai perdu mon papa très jeune, donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à lui, en me disant, ben, j'ai réussi à me dépasser. Et en fait, je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens hein, qui sont dans ce genre de discipline, surtout quand c'est long. À chaque fois, on se dit, ben, on a réussi à le faire, on se le prouve à soi à chaque fois. Donc c'est assez important et c'est transcendant en même temps. Donc c'est chouette.
Comment tu es passé de la simple course à pied, on va dire, au début, à ce marathon. Tu nous as dit, ça allait assez vite, hein, en 4 mois déjà, un semi-marathon, l'année d'après, plusieurs marathons.
Ouais.
À quel moment tu dis, tiens, je passe de la petite course à aller, je me donne ce challenge, cette envie de compétition
En fait, ma première année de course à pied, j'ai intégré un club de course à pied. Donc en me disant, allez, on va se mettre des challenges. Je faisais des courses toutes les semaines, des petites courses. C'était très sympa, on était dans une ambiance plus ou moins festive, hein, mais surtout énormément de concurrence les uns avec les autres. Et j'ai commencé à me blesser et en fait, ça a été plus le premier marathon, ça a été plus un défi de se dire « Allez, je vais le faire, je suis capable d'aller plus loin ». D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait en étant blessée, puisque je m'étais pas écoutée. Je m'étais mis à courir comme la plupart des gens qui font de la course à pied, ils cherchent juste le chrono. Donc on s'entraîne et on fait la course avant la course en s'entraînant. Donc malheureusement, on n'écoute pas son corps. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis venue à là. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, quand je cours différemment parce que je cours essentiellement au cardio, en m'écoutant, en écoutant mon corps dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Et quand je suis fatiguée, eh ben, je ralentis. Mais de cette façon-là, je progresse. Donc en fin de compte, il faut pas se tromper dans la façon dont on aborde ce sport.
Est-ce que tu as rencontré des difficultés avant d'arriver à ce premier marathon ? Tu disais que tu as été blessé. Est-ce qu'il y a il y a un moment où tu as songé à renoncer ou même pendant la course, tu dis mince, mais qu'est-ce que je fais là ? Je vais jamais y arriver ou tu penses pas vraiment à ça ?
Non, j'y pense pas vraiment en fait. Et puis voilà, encore une fois, j'ai la chance d'avoir mon mari et ma fille qui sont là, donc automatiquement, il y a des moments où ça devient plus dur et puis voilà, quand on sait où on va les croiser, bon ben on dit ben non, on va pas les décevoir quoi. Moi, j'ai pas envie que ma fille elle me regarde en se disant ma mère elle a pas réussi quoi.
Et en termes d'entraînement, ça te prend combien de temps par semaine, combien de fois, quoi?
Alors en fait, ouais, c'est assez important. Quand j'ai commencé la course à pied, ben il y a tout juste 4 ans, parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je cours. Je courais 3 fois par semaine, comme la plupart des gens, enfin qui se mettent à la course à pied. Aujourd'hui, je suis à 5 fois par semaine et en ayant des entraînements aussi bien de natation, de renforcement musculaire et autres. Mais je suis suivie par quelqu'un, donc c'est pour ça aussi que mes entraînements sont différents.
Alors suivi par quelqu'un, un coach, un entraîneur, ouais, un préparateur physique.
Oui, un peu tout dans l'ensemble, on va dire un tortionnaire, hein, on devrait dire plutôt. Mais bon, oui, je fais partie de la structure Esprit Sport. Donc c'est une assoce où justement, tout l'intitulé veut vraiment tout dire dans le sens où on fait du sport et il faut être bien dans sa tête aussi. Et encore une fois, bien dans sa tête, c'est dans le sens où on fait attention à son corps. En se disant bien que courir pour courir, c'est une chose, mais il faut pouvoir durer dans le temps. Donc voilà, donc c'est important de faire attention à sa façon d'aborder le sport. Mais c'est comme ça dans tous les sports, je pense.
Pour arriver à courir un marathon, il y a, j'imagine, un énorme programme d'entraînement, différentes longueurs, distances, rythme, on va dire, aussi de course. Comment ça se mélange un petit peu tout ça? On va dire une semaine type pour préparer un marathon, ça se passe comment? Tu cours tous les jours déjà?
Non, enfin, quand j'ai de la chance, hein, on va dire que je cours 5 fois par semaine. Des fois, ça m'arrive 6 fois par semaine. Mais bon, en général, on est plus sur 5 fois. Donc, ça va être du fractionné 1 à 2 fois par semaine, des sorties longues. Et on va être toujours sur la même base, hein, je me répète presque, hein, mais à respecter son cardio. Et mine de rien, c'est 70% de la totalité qui doit être fait à une allure très basse. À une allure très basse, mais au niveau du cardio.
Et plutôt constante.
Ouais, constante aussi, ouais. Ouais. Donc.
Et quel est l'apport en fait de la course en fractionné justement pour après finalement courir toujours quasiment au même rythme sur une si longue distance?
Le fractionné permet surtout au niveau tout ce qui est fibres musculaires aussi, hein, de casser les fibres, parce qu'il faut pas oublier que c'est 42 bornes, hein, donc il faut pouvoir les encaisser. Et puis quand vous faites du fractionné ici dans notre doux Béarn, ce qui est très sympa, c'est qu'il pleut souvent. Donc c'est assez chouette de courir sur la piste à la vie quand il pleut et qu'il y a des flaques partout. Donc au niveau mental, c'est génial. Ouais. Puis faire le hamster, je peux vous dire que ça en apprend. Hein.
Au niveau de l'alimentation, c'est aussi très strict, j'imagine, pour préparer un marathon.
C'est la mauvaise question.
Ouais. Pour encaisser l'entrecôte.
Est-ce que l'entrecôte, voilà, est-ce qu'on se fait une entrecôte la veille d'un marathon, par exemple?
Alors, mais moi, je vais vous étonner. Moi, j'ai pas du tout le profil d'un marathonien. Donc, d'ailleurs, vous me voyez, donc vous voyez bien, la plupart des marathoniens sont très maigres. Moi, je suis pas du tout le cas. Et je sais pas vraiment faire attention. C'est peut-être mon passif, hein, qui est comme ça. Hein. Mais je vais pas forcément faire attention. Par contre, habituellement, 2 semaines avant un marathon, je fais relativement attention. En me disant que ça va avoir forcément un impact sur le marathon. Avant New York, donc j'y suis allée, on est quand même arrivé 4 jours avant, on a marché 15 km par jour, j'ai mangé des burgers tous les jours, parce qu'on ne dit pas non à une ado de 14 ans. Donc je me suis dit, c'est horrible le jour de la course, mais je ne vais même pas réussir à faire quoi que ce soit. J'ai mis 3h51 en prenant du temps et en prenant des photos. Ouais. Donc, et en ayant mangé n'importe quoi. Donc, comme quoi...
Bon exemple.
Ça donne de l'espoir à beaucoup de monde.
Hein, c'est assez inquiétant, hein, quand même.
C'est quoi tes prochains projets, tes prochaines courses, là, dans les semaines, dans les mois à venir?
Ouais, alors, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ça va être... le but, c'est d'essayer de se mettre au trail. C'est pas trop mon
c'est
domaine.
C'est pas le même exercice, quand même.
Non. Moi, j'adore l'asphalte. C'est mon truc. Moi, j'adore la route. Malheureusement, hein, ça fait peut-être mal aux oreilles à beaucoup de gens. Hein. Mais voilà, donc j'essaye de me convertir. Je finis par apprécier. Faut pas croire. Hein, ça peut être sympa. Et donc voilà. Donc le but, c'est de faire un petit GRP cet été, donc de 40 bornes, pour voir.
Tranquille. Oui.
Voilà, pour essayer de voir ce que ça donne un peu. Mais on va dire que ma carotte, c'est plus au mois d'octobre, je fais le marathon de Chicago. Donc, donc voilà. Mon but ultime...
Il fait froid, non, déjà?
Non, c'est sympa, non, Chicago. Ouais, ouais. Mon but ultime, c'est vraiment de faire les... Alors, dans les marathons, c'est les 6 majors, qui sont les 6 plus gros marathons du monde, en fait. Et donc, c'est de faire Chicago, alors peu importe l'ordre.
Hein.
Voilà, New York, c'est fait, mais j'aimerais bien le refaire. Hein. Donc, New York, Chicago, Boston, Tokyo... Et il m'en manque un.
Et le sixième.
Et lequel?
Voilà. Berlin. Paris.
Bah oui, mais voilà,
non, la question, pas, c'était Berlin, c'est parfait, c'est ça. Il sait mieux que moi, je pense qu'il va s'y mettre.
Ah, je connais, c'est le plus rapide en fait, c'est le plus.
Ouais, mais c'est ouais. Et c'est pas forcément celui qui me disait le plus. Ouais, il y a Londres aussi au passage qui peut être qui est aussi dedans. Donc voilà. Donc c'est le but, c'est de les faire en plusieurs années.
Et en termes de récupération après un marathon, comment ça prend du temps? C'est.
Alors je dirais que ça dépend de la personne. Moi, c'est toujours pareil. Je suis alors pas chanceuse, mais je pense surtout que je suis très paresseuse. Le lendemain d'un marathon, je peux marcher sans problème. J'ai aucun problème. J'ai mal nulle part, du tout. Sauf le premier, évidemment. Hein. Mais c'est pour tout le monde pareil. Le premier marathon, on est rarement très très bien. Et soit on se dit, en général, on se dit, on n'a plus envie d'en faire, quoi. Et le lendemain, on peut effectivement plus marcher. C'est pas un mythe, les escaliers, on peut pas les monter. C'est pas possible. Donc voilà, mais après non, quand on est habitué, le lendemain tout va bien quoi. Mais on recourt surtout pas parce qu'il faut pas.
Tu as parlé de tes projets pour les prochains mois, les prochaines années, même un petit peu plus loin. Est-ce que Paris 2024, ça fait partie des petites idées dans un coin de ta tête? Il y a ce marathon là qui va être ouvert à tout le monde.
Ouais, c'est un peu utopique.
Ça, hein. ça fait partie des petites choses qui te feraient plaisir ou pas?
Je sais pas, sincèrement j'ai pensé parce que. C'est pas, je trouve ça original, hein. Ça peut être une idée, faut voir comment c'est abordé. Après, j'ai envie de dire, faut pas voler la vedette pas aux vrais sportifs, parce que tout le monde est sportif, hein. Mais pour moi, les héros du jour, c'est plus eux, c'est pas forcément nous, quoi. Donc pourquoi pas, à voir.
Sur un marathon traditionnel, il y a les stars qui font 2 heures et quelques, enfin voilà, il y a un peu
2 heures.
Ouais, 2 heures, ouais, 2 heures 5, 2 heures 2, 2 heures 1, il y en a qui se rapprochent de la barre mythique des 2 heures. Donc du coup, ça existe déjà quand même sur tous les marathons à New York. Mais il y a les Éthiopiens, les Kenyans. Donc pourquoi pas sur un marathon olympique?
Ouais, il y a des élites, mais c'est vrai que je l'aborde pas dans le même sens. Je me dis bon, c'est sympa de l'ouvrir à tout le monde, mais je sais pas. C'est pas forcément un des buts que je me fixe.
Non, il fait pas partie des 6 majeurs de toute manière, donc c'est pas intéressant. D'accord.
Et non, et Paris n'en fait pas partie. Donc bon.
Merci beaucoup Virginie Kolanowski d'avoir été avec nous ce soir dans Pyrénées Sport Local. Tu peux rester bien sûr avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci pour ton témoignage et bravo parce que c'est quand même un bel exemple du déplacement de soi, hein, comme tu nous l'as justement dit tout à l'heure. On va se retrouver dans quelques instants, juste après une page de pub, et on retrouvera le président du club de Ponousti Sport, Jérôme Doubrère, pour nous parler de la belle deuxième partie de saison de son club. On va y venir dans quelques instants sur Radio Inside. À tout de suite.
Pyrénées Sport Local. Tous les lundis. 19h-20h.
Vous écoutez Radio Inside, c'est Pyrénées Sport Local en direct jusqu'à 20h. Il est quasiment 19h30. Mathilde va vous rappeler très rapidement le jeu pour gagner des places ce soir pour aller voir et encourager l'Élan Béarnais ou la section paloise, les deux équipes qui jouent samedi soir au Palais des Sports, bien sûr pour l'Élan Béarnais, au Stade du Hameau pour la section paloise.
Alors, vous répondez à la question sur la page Facebook de Radio Inside. Quel joueur de l'Élan Béarnais a terminé meilleur marqueur contre Boulazac avec 27 points? Michoko, Bichoko ou Chicoco? Je ne vais même pas arriver à donner la bonne réponse. Donc, si vous avez la bonne réponse et pas des approximations, vous envoyez votre réponse sur la page Facebook de Radio Inside, un petit message pour tenter de gagner vos places pour aller voir la section ou l'Élan Béarnais samedi.
Voilà, la section qui joue à 18h45 et l'Élan Béarnais à 20h. Et nous vous l'avions annoncé juste avant la pub, nous sommes en direct avec le président du club de Ponousti Sport, Jérôme Doubrère. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir sur Radio Inside, Jérôme, avec une très belle victoire ce week-end contre Valence pour le Ponousti Sport, acquise dans les 20 dernières minutes et en plus avec la manière.
Effectivement, une très très belle victoire, je pense le match le plus abouti de l'année, avec un très très beau jeu développé. Alors comme je dis toujours, dans le sport, pour avoir un beau match, il faut qu'il y ait deux belles équipes. Valence en était une, ils nous ont contraint et conduit à aller jusqu'au fond de nos réserves pour aboutir à ce match plein et surtout aboutir à une belle victoire devant une salle comble. Donc une très très belle soirée effectivement.
Voilà, succès qui arrange bien entendu Ponousti, mais aussi qui fait les affaires des voisins de Bière. Hein.
Oui, tout à fait. Je ne vous cache pas que j'ai même eu des petits messages de nos voisins, voilà, pour qui étaient forcément très contents de notre victoire. Parce que ça venait dans une position maintenant vraiment idéale, avec 3 points d'avance sur Besançon et 4 sur Valence, pour remonter en Pro League.
C'est super d'avoir là les deux clubs béarnais dans cette poule haute en play-off, Jérôme.
Oui, tout à fait. Et puis ça montre un petit peu la dynamique du handball en Béarn. Je pense qu'eux aussi, ils avaient une belle affluence, nous aussi. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'il y a aussi un public de handballeurs en Béarn et qui attend des matchs de haut niveau. Donc oui, c'est bien parce que ça fédère tout au plus, dès le plus jeune âge. D'avoir une vitrine comme ça, ça fait de l'émulation et c'est très bien pour le handball tout d'abord.
Cette victoire là contre Valence, c'est la sixième consécutive pour Ponousti, une série vraiment impressionnante.
Alors j'avais en tête mon 7, donc à mon avis c'est 7. Il y en avait une juste avant la trêve en novembre.
Oui, voilà, avant la Coupe de France. Voilà. Ouais, tout à fait.
Et puis après, non, pas en Coupe de France, oui, juste avant la Coupe de France, ouais. Le dernier tour de Coupe. Donc on avait été gagné à la Nestère, qui était à l'époque second, et c'est à partir de là qu'on a enchaîné une multitude de victoires. Donc c'était la septième samedi. La dernière équipe à nous avoir battue, c'était justement hier, au Sporting d'Est.
Si on revient quelques mois en arrière, après deux mois très compliqués en octobre et novembre 2018, c'était difficile, voire surréaliste, d'imaginer une telle remontée et une qualification en play-off, Jérôme.
Tout à fait. Alors bon, pour mettre un petit peu dans le contexte, effectivement, début de saison, on savait que ça allait être une saison un petit peu normalement de transition, avec des joueurs qui nous avaient rejoints, les jeunes qui allaient prendre un peu de grade. Et c'est vrai que l'objectif d'aller en play-off était plutôt sur deux ans. Le mois d'octobre, c'est vrai, nous a pas mal plombé avec 5 défaites d'affilée. Et puis bon, il n'y avait pas de raison de s'affoler non plus, dans le sens où l'effectif, on l'avait. Le jeu, il fallait que ça se mette en place petit à petit. On a eu aussi des blessures qui ne nous avaient pas arrangées. Et dès que la dynamique s'est réenclenchée avec un tour de Coupe de France qui nous avait fait le plus grand bien contre Frontignan, qu'on va retrouver cette fois-ci en championnat. À partir de ce match-là, on va dire la dynamique s'est réenclenchée, et puis quand on avait battu Frontignan, après on avait perdu hier, mais vraiment avec les honneurs. Et de là, l'équipe a repris confiance, et aujourd'hui, ils affichent vraiment une confiance à toute épreuve, qui leur fait se surpasser pour être à la hauteur des équipes de haut de tableau de cette nationale.
Donc du coup, sachant que la montée n'est pas possible, Arnaud nous a expliqué la semaine dernière le règlement, quel est l'objectif là que se sont fixés les joueurs et le staff pour cette fin de saison?
Alors l'objectif, une fois qu'on a été qualifié en play-off, les joueurs, moi j'en avais pas donné en tant que président, parce que voilà, les play-offs, c'est sportivement, maintenant c'est leur compétition à eux, c'est eux qui se la font gagner, donc à eux d'en faire ce qu'ils souhaitaient en faire. À l'issue du premier match qu'on a gagné à l'extérieur à Saint-Rebourg, les joueurs ont décidé de se fixer comme objectif les 4 premières places, dans les 4 premiers. Donc voilà pour l'objectif sportif. Et après, par contre, nous, en tant que dirigeants, de se qualifier en play-off, forcément, ça nous donne un petit peu de tranquillité pour travailler pour l'avenir, puisqu'on sait qu'on ne peut pas, par exemple, descendre. Donc, on gagne 3 mois, si vous voulez, pour préparer déjà la saison prochaine. Et donc, c'est effectivement avec beaucoup plus de sérénité qu'on peut s'engager sur des choses, que ce soit avec les partenaires, avec éventuellement avancer un petit peu sur le recrutement aussi, mais ça va aussi pouvoir permettre aux jeunes de s'aguerrir. Et donc, voilà, en coulisses, on travaille, nous, dirigeants, déjà, pour préparer la saison prochaine, ou depuis qu'on a goûté au play-off, forcément, on aura envie d'y revenir et donc se donner tous les moyens pour qu'on y arrive.
Et par contre, avec les bons résultats, là, donc, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pas susceptibles de partir peut-être vers des clubs un peu plus huppés? T'as pas peur de ça par rapport à la saison prochaine?
Il est évident qu'être en play-off, ça met en lumière. En lumière un petit peu partout en France, c'est évident. On sait que les play-offs sont très gardés, forcément au niveau national, mais au niveau aussi Pro League, Division 2. Donc, pour l'instant, je pense savoir que ça n'a pas encore été le cas. Mais c'est vrai que si on continue dans cette dynamique et engranger les victoires et qu'on se maintienne dans le haut tableau des playoffs, il n'est pas exclu que peut-être certains de nos joueurs soient sollicités. Mais on verra ça en temps voulu. Nous, on a déjà un petit peu anticipé tout ça, puisque avec le coach Michel et un ou deux autres membres du bureau, on a déjà commencé à les rencontrer individuellement pour faire un petit peu le bilan de la saison, pour parler de cette fin de saison, mais aussi pour déjà parler de l'avenir. Tous, sans exception, nous ont manifesté leur souhait d'être avec nous l'année prochaine, mais c'est vrai que maintenant, on ne sait jamais. S'il y a des propositions alléchantes qui se présentent à eux, je sais d'ores et déjà qu'ils nous en tiendront informés et on avisera en temps voulu. Mais quelque part, ça serait juste récompense pour eux Et puis ça montrerait aussi que du coup, nous aussi, en termes de formation, et du coup, ça valoriserait notre formation, de savoir certains grands clubs puissent s'intéresser à nos joueurs.
Une question pour toi, Jérôme, sur les réseaux sociaux de Radio Inside. C'est Mathilde qui va te la poser.
On a une question de Sylvain qui nous demande qu'est-ce qui fait la force de ce groupe qui est relativement jeune, du coup.
C'est avant tout une très 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 bonne bande de copains. Malgré qu'il y ait eu 4 arrivées en cours de saison, ça a vite. Il y a eu au début ils ont dû apprendre à se connaître. C'est ce qui a fait un petit peu les résultats en dents de scie de début de saison. Mais voilà, ils ont appris à se connaître et maintenant ils sont tous avec leur caractère et leur passion à côté du handball, avec les intérêts des uns et des autres. Ils ont tous appris à se connaître et à se respecter surtout. Et du coup, maintenant, c'est une bande de copains et qui, sur le terrain, s'il y en a un en difficulté, il y en a deux autres à côté qui vont l'aider, s'encourager. Voilà, ça, c'est la grosse, grosse force de notre groupe. Et là, je rends quand même hommage à Michel, notre coach, parce que c'est bien beau de voir ça traduit sur le terrain, mais en coulisses, hein, toute la semaine, c'est lui un petit peu le chef d'orchestre, et c'est lui qui arrive à mettre tout ça en musique. Donc voilà, c'est la force d'un groupe, c'est le collectif. On n'a pas, contrairement à des équipes que l'on peut rencontrer, deux ou trois joueurs qui surnagent, notre groupe est très très cohérent. Et donc du coup, on ne peut réussir que dans un collectif et non pas individuellement.
Jérôme, tu parlais bien sûr de l'entraîneur Michel Laborde. Comment est-ce qu'il arrive à garder la motivation chez ses joueurs, sachant qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est pas possible pour Ponousti de monter?
Je peux vous assurer qu'il n'a pas besoin de se forcer à tenir un discours pour les garder motivés, parce que eux-mêmes, individuellement et collectivement, ils ont vraiment envie de prouver qu'ils sont pas là pour hasard. Ils veulent aller le plus haut possible, c'est-à-dire gagner tous les matchs qui se présentent devant eux. Michel n'a pas eu besoin de les pousser à cette motivation-là, et moi en tant que président encore moins, parce que clairement, eux, individuellement et collectivement, ils veulent aller le plus haut possible. Leur maître mot, quand on a été qualifié en play-off, c'était avant tout ne pas paraître pour des pimpins, je reprends leur expression, et surtout de montrer qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'on s'est joué au handball aussi. Donc il n'y a aucune motivation particulière à trouver, ils se la sont mis eux-mêmes. Voilà.
Mais c'est pas
des objectifs que je trouve élevés, mais qui sont très agréables en tant que président, avoir des joueurs motivés comme ça, quoi.
C'est parfait pour tout le monde. Et le programme à venir donc pour Ponousti, un déplacement, c'est ça, ce week-end, du côté de Gonfreville?
Effectivement, là c'est clair que un déplacement quand même assez compliqué à Gonfreville, qui est une équipe redoutable. Il y a eu contre un match d'égalité avec nous, je crois. C'est une équipe qui est potentiellement, avec un potentiel énorme, qui aurait pu prétendre au statut VAP, qui en ont les capacités financières, pour les raisons qui leur appartiennent, ils n'ont pas demandé. Donc on sait qu'on va être en difficulté ce week-end. Mais voilà, comme on le saura sur tous les matchs qui arrivent, de toute façon, quand on joue dans les 8 meilleures équipes de France, forcément, tous les week-ends, ça sera des gros challenges. Et avec la confiance qu'ils ont engrangée, et voilà, la dynamique sur laquelle ils sont, mais pourquoi pas rêver à un exploit de plus.
Merci beaucoup Jérôme Douvrère et bravo encore au Ponousti Sport. On espère bien sûr que la saison continuera sur cette lancée. Bravo et bonne continuation au club de Ponousti.
Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps à votre antenne.
Avec plaisir.
Rendez-vous à tous les supporters le samedi 30 mars pour le prochain match contre Vernouillet.
Voilà, le message est passé. On en reparlera bien sûr, comme chaque semaine d'ailleurs, dans Pyrénées Sport Local sur Radio Inside. À très bientôt Jérôme, merci.
À très bientôt, bonne semaine, au revoir.
Voilà, c'était Jérôme Doubrère, le président du Ponousti Sport, donc forcément satisfait par la prestation de son équipe première. 7 victoires consécutives en championnat, c'est une belle, belle performance et Marc va peut-être en reparler d'ailleurs dans son journal du sport local qui arrive tout de suite.
Le journal du sport local, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive du Béarn.
Le journal du sport local, Marc, avec un peu de handball, évidemment.
Exactement. Voilà. Donc, avec la victoire de Ponoustie contre Valence sur le score de 34-27. Et Ponoustie, l'objectif, la quatrième place dans les quatre premiers, mais il n'est qu'à un point de la deuxième place. Donc, pourquoi pas rêver d'avoir premier Bière, puisque Bière a battu sa rebours ce week-end 26-20. Et deuxième, Noustie. Donc, l'espoir est permis. Un petit mot de rugby, on y reviendra un peu par la suite, avec la défaite de la section. Alors, défaite honorable pour certains sur le score de 27-14. On y reviendra après, j'ai quelques mots à dire là-dessus. À noter que Vincent Pinto n'a pas participé à ce match puisqu'il jouait avec les U20 contre l'équipe d'Italie qui s'est imposée sur le score de 35-31 et qui a marqué un essai, le troisième, il me semble, de l'équipe de France. Et Lisa Ricastre a participé à la défaite surprise quand même de l'équipe de France à 15 féminine, donc qui prend un petit peu exemple sur l'équipe masculine, c'est bien dommage, donc qui a été défait en Italie. Un peu de football, ouais, avec la superbe victoire du Pau FC contre Quevilly-Rouen sur le score de 3-0, avec trois buts de ces fines gâchettes, dont Boigard, Gaï et Thiel, donc ces trois meilleurs éléments offensifs, et qui permet un petit peu à ce club du Pau FC de respirer un petit peu, puisque de prendre 5 points d'avance sur la zone de relégation. Donc c'est une victoire qui arrive à point nommé, parce qu'il y avait 5 défaites d'affilée. Donc
il fallait vraiment arrêter cette spirale négative là pour le Pau FC qui était en train vraiment de s'enfoncer dans les profondeurs du classement, et ça fait du bien, même si cette équipe de Quevilly n'était pas au complet, c'était pas l'équipe type de Quevilly, mais bon, le Pau FC a fait le travail, a gagné et s'est remis un petit peu vers l'avant. Avec d'ailleurs, on peut le signaler, l'effet, j'allais dire,
Dado Perso peut-être.
Peut-être.
Voilà, l'ancien attaquant de Monaco qui avait participé, si je me souviens bien, à l'épopée donc de 2004 à Monaco, qui allait en finale de Champions League. Donc voilà, peut-être qu'il a amené son savoir. Au moins, au niveau des buteurs, ça a marché, parce que trois buts quand même en un match, ça faisait un petit moment que le Pau FC n'avait pas fait cette régalade. Donc peut-être que ça va amener un petit souffle nouveau, et comme c'est un copain d'Irles, peut-être voilà, qu'ils vont arriver à faire en sorte que le Pau FC se maintienne plus tranquillement que les saisons passées sur la fin de saison.
Voilà, que ça dure pour le Pau FC.
Voilà, parce que en National 3 pour le Tarbes Pau Football, c'est quand même
Tarbes Pyrénées Football, oui, peut-être, ouais, parce que Tarbes Pau, je sais pas s'ils ont encore créé.
Ça viendra peut-être un jour.
Tarbes Pyrénées Football, là c'est quand même, ça devient de plus en plus compliqué, avec une nouvelle défaite à domicile contre les Héroletais de Fabregues sur le score de 3-0, et ils se retrouvent dorénavant dernier de leur poule, avec 5 points de retard sur le premier relégable. Donc c'est un peu compliqué. En foot également, un petit mot sur nos amis d'Angaïs qui ont atomisé, explosé, enfin bon, le club 12 sur le score de 8-2.
Et on ne les arrête plus.
Ah ouais, ça fait parler un petit peu sur les réseaux sociaux.
Oui, et bien alors, on sait que le FC Angaïs, on en avait parlé, à une page Facebook très active avec des actualités, des commentaires, des résumés de matchs. Alors, je vous fais partager le petit résumé du match qui a été publié aujourd'hui sur la page Facebook donc du FC Angaïs. Encore une victoire pour le FCA, un match en retard de la 8e journée. Les Verts et Blancs se sont imposés hier matin, donc 8-2 à domicile face au FC Ousse. Grosse satisfaction pour le coach Pif après ce nouveau succès à domicile qui permet au FCA de conforter sa deuxième place au classement. Malgré un gros turnover par rapport au week-end précédent, la performance collective a été bonne et les joueurs ont tout de même répondu présent sur ce match. Avec les retours des blessés, le coach peut désormais s'appuyer sur un effectif pléthorique, suffisant pour jouer à fond sur les deux tableaux, même si le président Carrère a annoncé officiellement que l'objectif restait le maintien, le FCA ne peut désormais plus se cacher. Voilà. Alors je vous invite à aller.
Je suis pas sûr qu'il puisse descendre en plus. Non.
Le président Carrère, c'est le Giroud en fait.
Oui, c'est ça.
Je vous invite à aller voir cette page du FC Angaïs, on en a déjà parlé, mais si vous voulez passer un bon moment, même si vous n'êtes pas très très amateur de foot, vous aurez toujours des commentaires assez sympas à lire toutes les semaines.
Merci Mathilde.
Merci, c'était fort intéressant. Voilà. Non, c'était bien, c'est bien. Un peu de basket avec la petite victoire de l'Élan Bernay contre Boulazac, 97-95. Un match dur, mené tout le match, et à la fin, ils arrivent à s'imposer, donc une petite victoire au mental. Donc ils sont un peu dans le dur quand même, l'Élan, puisque après la défaite au Portel, cette petite victoire contre Boulazac, mais bon, elle fait du bien, elle leur permet de maintenir cette seconde place.
Là, il a fallu absolument, hein, parce que ça revient derrière, et pour l'Élan Béarnais, même voilà, s'imposer un peu à l'arrache dans un match où ils en prennent 95 à la maison, ça arrive pas tout le temps. C'était arrivé, je crois, en début de saison face à Chalon-sur-Saône, c'était au mois de novembre, ils en avaient pris un petit peu plus de 95 aussi. Ils s'en étaient sortis là à nouveau, mais ils ont réussi, voilà, passer devant, garder cet avantage-là en fin de match, alors qu'ils se sont fait peur quand même pendant une grande partie de la rencontre. Et cette victoire, elle fait vraiment le plus grand bien pour conserver cette deuxième place. L'Élan qui est toujours seul deuxième avant de recevoir Chalon-Reims ce week-end. Donc là aussi, hein, victoire impérative pour les Palois. Faut continuer comme ça à domicile pour continuer et garder, on va dire, cette place le plus haut possible. Idéalement la deuxième, hein, mais faut être le mieux placé possible pour les playoffs à la fin de la saison parce que on voit mal l'Élan Bernay ne pas être en playoff s'il y a du monde derrière.
Non, et on leur souhaite de finir enfin des places intéressantes pour recevoir, pour avoir l'avantage du terrain jusqu'à la finale. Donc
rêvons.
Pourquoi pas,
on y croit. Et c'est vrai que ce match-là a été compliqué. Bon, ils ont fait preuve d'abnégation et bon, il y a eu beaucoup de fautes de Boulazac, donc ils ont été quand même assez adroits au lancer franc, ce qui leur a permis de s'imposer en fin de match. Donc c'est une victoire qui est quand même petite, mais mentalement qui peut faire du bien, quoi. Et la défaite aurait fait des ordres quand même aussi. Donc c'est une bonne victoire. Chez les espoirs, les espoirs continuent à gagner aussi contre Boulazac sur le score de 91 à 78. Donc là aussi c'est plutôt pas mal. Ils sont dans la première partie du championnat après un début de saison compliqué. Ils enchaînent de belles performances. Au niveau du basket féminin.
Peut-être inventer un nouveau sport.
Ouais,
hein.
Ouais, j'allais inventer un nouveau sport, mais bon, on va être plus traditionnaliste. On va parler de basket féminin avec le réveil du TGB qui s'impose à Vinaldasque sur le score de 72 à 51, qui a marqué plus du double de points que la semaine dernière. Ouais. Là, j'ai du mal. que la semaine dernière. Donc c'est une victoire aussi là qui fait du bien parce que la zone de relégation se rapprochait. À noter en National 1 féminine, donc les filles d'Orthez qui se qualifient pour les finales de championnat, enfin de coupe, pardon, de France amateur.
Trophée Coupe de France.
Ouais. Trophée Coupe de France le 10 mai. Donc après deux victoires ce week-end contre Fessia et Sceaux. Donc elles représenteront le Béarn en finale à Bercy. Donc c'est quand même une super performance. Puis la saison en championnat est pénible. Donc c'est chouette. C'est une belle perf et on leur souhaite plein de réussite pour ces finales. Pour la finale, donc le 10 mai.
Très bien.
Un peu de tennis ?
Ouais, petit peu de tennis. Et après, je crois qu'il y avait une petite info du côté de Mathilde. Non, pas du tout. Si ? Ouais,
non,
je sais pas.
Non, mais
on va terminer avec le tennis. Il n'y a pas de souci. On va terminer avec le tennis et l'actualité de Jérémy Chardy. Ça va être assez rapide, hein, puisqu'il a encore une fois été éliminé au premier tour. C'était au Challenger de Phoenix. Hein. Alors, on savait que l'enchaînement après le Teréga Open pour Pyrénées allait être compliqué pour le co-directeur du tournoi. Il a été sorti au premier tour du Masters 1000 d'Indian Wells. Juste avant, il a voulu se relancer sur un challenger. Il a bénéficié d'un bye sur le premier tour, ce qui signifie qu'il est rentré directement au deuxième. Il a joué contre un des qualifiés, l'Italien Lorenzo Sonego, 23 ans, 106e au classement ATP. Il a perdu en 3-7, Jérémy Chardy, 3-6, 6-3, 7-5. Compliqué pour lui, c'est son quatrième revers sur les derniers tournois dès le premier tour. Il va falloir réagir rapidement et notamment au Masters 1000 de Miami qui se profile cette semaine pour Jérémy. On connaît pas encore le tirage au sort pour lui, mais voilà, on espère qu'il va réenclencher rapidement le compteur de victoire, Jérémy, pour repartir de l'avant et reprendre quelques places aussi au classement parce qu'il est en train de chuter petit à petit. Il est redescendu à la 40e place. Mais il faudrait pas qu'il laisse échapper trop de points encore sur un tournoi comme celui-ci.
Ouais, c'est dommage. Après, l'idée était bonne d'aller faire un challenger après avoir perdu au premier tour du Master, mais c'est compliqué puisque David Goffin, la tête de série numéro 1, s'est fait éliminer en quart de finale, je crois.
Donc c'est Berrettini qui le gagne.
Ouais, c'était pas facile. Sachant que ça serait bien qu'il remonte un petit peu pour avoir une chance peut-être d'être tête de série à Roland Garros puisque c'est les 32 premiers joueurs mondiaux.
Je pense qu'il a ça dans un coin de la tête.
Ouais, donc ça serait bien de s'y remettre un petit peu. Mais on voit que c'est dur de gérer sa carrière sportive et la carrière d'organisateur. Donc ça a été pas fait, je crois, d'après ce que voilà, c'est le premier à faire ça. Et on se rend compte que c'est difficile de faire les deux en même temps. Donc on lui souhaite bonne chance pour le tournoi de Miami.
Voilà pour l'actualité tennis et pour clôturer ce journal du sport local. On va se retrouver dans quelques instants, juste après une troisième et dernière page de pub dans cette émission. On retrouvera tout à l'heure Marc, notamment pour le kiff et la gifle, avant de conclure cette émission. A tout de suite sur Radio Inside.
Pyrénées Sport Local. Tous les lundis. 19h-20h.
Il est 19h54, vous écoutez Radio Inside à Pau et dans le Béarn sur le 99.8, à Tarbes et dans la Bigorre sur le 88.7. C'est l'émission Pyrénées Sport Local en direct jusqu'à 20h. Donc vous l'aurez compris, on est encore ensemble pour 5 minutes. Ce sera le temps pour le kiff et la gifle.
Un coup de cœur, un coup de gueule, c'est le kiff et la gifle de Pyrénées Sport Local.
Voilà, le kiff, la gifle, cette fois-ci c'est Marc Logini qui s'y colle.
pas facile de remplacer Olivier. Ouais. Je vais essayer. Donc, je me suis facilité la tâche. J'ai fait kiffer une gifle sur le même événement. Donc, c'est quand même plus facile pour moi.
Ouais.
Donc, c'est par rapport à dans la section qui se déplaçait à Clermont. Donc, déplacement quand même assez difficile. Et mon petit kiff, c'était la composition d'équipe avec cette jeunesse qui était au pouvoir. Puisqu'en fait, on va dire sur les postes clés quand même du rugby, qui sont demi de mêlée ouverture, on avait les deux jeunes, Clovis Lebaille et Astoy. Donc, je trouvais que ça, quand même, que c'était une bonne chose. Plus quelques autres jeunes, Kevner en troisième ligne, Septar aussi, qui n'a pas trop joué, qui retrouvait son ancien club. Donc voilà, toute cette jeunesse me faisait plaisir. Le début du match allait dans ce sens-là, puisque mais quand même, la section a quand même pu trop maîtriser son début de match, menant 6-0. Et là, un petit peu patatras, donc surtout un événement qui, je pensais, allait dans le bon sens de la section, un carton rouge pour Clermont. Et là, ça s'est un peu enrayé, quoi. Donc c'est dommage, il y avait moyen de faire quand même pas mal, et on se retrouve à la fin avec des commentaires, défaites encourageantes, bonnes défaites, un peu comme l'équipe de France, quoi. Et ben moi, je trouve que c'est dommage de même pas revenir avec un point, alors qu'il y avait tout pour faire un bon résultat, en menant 6-0, en ayant quand même une mêlée qui était quand même assez dominatrice. Donc, alors peut-être que cette jeunesse a pas su gérer ce coup du sort pour l'équipe de Clermont, puisque c'est vrai que l'équipe de Clermont quand même est plus expérimentée, donc c'est peut-être gérer ces événements-là. Mais je pense que quand même de jouer à 14 contre 15 dans un match de rugby, c'est un avantage pas négligeable. Ils auraient pu revenir avec autre chose que ce zéro pointé. Donc surtout, il y a eu des mauvaises gestions, le jeu au pied. Alors c'est sûr que il est pas buteur sur les autres matchs, Don Astoy, et donc il a un peu raté quelques coups de pied pas trop difficile, qui aurait pu permettre à son équipe de prendre un peu plus d'avantages ou de rester au score. Une touche aussi qui n'est pas trouvée. Donc voilà, moi je suis déçu de la performance après cette 23e minute, après ce carton rouge dans la gestion du match. Donc peut-être dû à la jeunesse de l'actif et de l'équipe, mais c'est dommage de revenir sans rien de ce déplacement. C'est sûr qu'avant le match, on aurait dit s'ils avaient pris, on pensait qu'ils allaient prendre 60 points ou 50 points comme ça arrive sur toutes les équipes du top 14 à Clermont. Mais vu la physionomie du match, voilà, je suis déçu. Donc c'est un peu ça ma gifle, quoi, la gestion du match à partir de la 23e minute.
Mathilde, cette défaite de la section paloise, cette supériorité numérique peut-être mal exploitée, ça fait réagir sur les réseaux sociaux.
Oui, ça fait réagir. Alors il y a vraiment, allez, on va dire deux équipes là sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui, on va dire, qui encouragent les jeunes qui composaient cette équipe, donc comme l'a dit Marc, et Bruno donc qui dit qu'il était au match. Cette équipe jeune et remaniée a tenu tête pendant 60 minutes à l'ASM. Ils ont porté fièrement les couleurs de Pau face à Clermont, qui marque en moyenne 40 points à domicile. Donc c'est vrai qu'on peut dire que bon, ils ont quand même, on attendait peut-être pas ce score, et hein, quand même qui était plutôt.
Oui, c'est ce que je disais.
Plutôt pessimiste, donc voilà, il y a cette partie. Et puis il y a ceux qui sont, comme Marc, un petit peu déçus. Thibaut qui nous dit une belle performance, non, ils étaient un de plus. Je ne sais pas ce qu'il faut changer dans cette équipe, mais il va falloir trouver à samedi pour Montpellier. Donc on est partagé aussi sur les réseaux sociaux. Après, moi je suis toujours optimiste, hein, on va le dire. Hein. C'est quand même bien d'avoir composé voilà, une équipe de jeunes, c'est quand même sympa, je trouve. Comme intention. Après voilà, ils ont peut-être moins d'expérience, et face à une équipe comme Clermont quand même, qui est une grosse équipe, bon ben voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et bon, ils ont sauvé les meubles, on va dire.
Donc toi, tu es plutôt kiff que gifle sur ce match. Allez, alors que allez. Marc est plutôt gifle, c'est ça?
Voilà, on va dire ça.
Allez, bon. Mais bon, vous ne serez pas d'accord, c'est pas grave, voilà, on va terminer sur ce désaccord cette émission, mais vous avez tout à fait le droit, pas de soucis. On arrive donc à la fin de cette émission, et vous l'aurez compris, je remercie à nouveau notre invité de ce soir, Virginie Kolanowski, la marathonienne. Merci encore à toi et bonne continuation. Allez, on te laisse le dernier mot, Virginie, pour conclure cette émission. Est-ce que ça t'a plu déjà?
Oui, c'était très sympa, ouais. Bah, en conclusion, je dirais, faites du sport, hein, ne vous blessez pas, et faites-le avec votre cœur, c'est le cas de le dire.
Voilà, je crois que c'est une très belle conclusion qu'on ne peut que partager dans cette émission et sur l'antenne de Radio Inside. Marc, Mathilde, nous on se retrouve la semaine prochaine avec Olivier, normalement, notre quatrième larron, hein, qui devrait être de retour et opérationnel. Hein. J'espère que ça ira mieux pour lui.
Si l'Ukraine nous le renvoie.
Voilà, oui, non, mais il est déjà rentré, mais pas forcément bien employé encore. On le retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Vous verrez peut-être les photos sur les réseaux sociaux.
Il a testé des sports un peu particuliers là-bas, a priori.
Des sports originaux. Allez, très bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Radio Inside. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de Pyrénées Sport Local. À très bientôt.